Bonjour, bonjour. Jeudi matin, on avait notre rencontre ici, le temps qu'on appelle de, un peu de méditation, prière, lectio divina. Et le texte qu'on avait, que j'avais proposé, qu'on a étudié, c'était les premiers versets de Jean 14. Et qui commence avec ce verset, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi ». Et puis le texte continue, on a parlé pas mal dessus, hein, c'était très riche, c'était intéressant. Mais je me suis arrêté personnellement sur cette première phrase et j'aimerais y revenir. Caroline nous a envoyé sur le groupe qu'on utilise pour se retrouver le mercredi soir, le lien d'un article, j'ai pas très bien vu, c'était sur, je sais plus. Ou en tout cas, un journaliste pose une question et il dit ceci. Le silence des églises face à ce qui se passe en ce moment est inquiétant. Et en fait, j'ai lu l'article vite fait, on va en discuter peut-être un prochain mercredi entre nous, mais je pensais aussi déjà aborder ça ce matin. Le personnage, le journaliste là, qui interroge, je crois, un théologien qui est bien informé, bien préparé, explique au Moyen-Âge, presque exclusivement les religieux qui s'occupaient du soin des corps, etc. Et puis il explique aussi comment à cette époque-là, on attribuait facilement à toutes ces maladies, c'était un jugement de Dieu, alors il fallait se repentir et puis ça irait mieux, etc. Et puis petit à petit, comment l'arrivée de la science, de la médecine moderne, a fait que on a mis de côté les religieux pour les soins. Et puis finalement, même la voix aussi du reste s'est tue, puis dit, mais aujourd'hui en fait, où ils sont et qu'est-ce qu'ils disent, hein. Mais quand même, l'article est honnête, il dit après, à la fin, mais oui, ils font des choses, ils participent, il y a des associations qui aident pour les repas avec Caritas, avec ci, avec ça. Mais ça posait cette question, c'était intéressant. Et pour moi, ça s'est relié avec ce texte, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Si nous avons en tout cas quelque chose que nous pouvons tous faire, c'est être des témoins de ce que Christ fait en nous. Et je voulais m'arrêter un petit peu sur cette pensée. Nous avons tous des raisons d'être troublés, hein, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient dans notre société, qu'elles soient au niveau de la planète. Je dirais malheureusement, où que nos regards se tournent, les nouvelles sont assez mauvaises. Ou en tout cas, il n'y a pas que du mauvais, mais c'est quand même difficile, hein. Et notre cœur peut facilement être troublé. Le mot que Jésus utilise ici pour troubler, enfin, il veut dire troublé, hein, mais c'est la conséquence d'une agitation. C'est le même mot qui est utilisé lorsque, par exemple, on a cette histoire qui est racontée dans les évangiles d'un ange qui descendait pour agiter l'eau d'une piscine et puis le premier qui se jetait dans l'eau était guéri, hein. Le trouble dans nos cœurs vient de l'agitation. On apprend quelque chose, on sait quelque chose, on est conscient de quelque chose, il se passe quelque chose, et notre cœur commence à être agité. Et comme il est agité, hein, vous savez ce qui se passe quand vous êtes dans une eau où le fond, il y a du sable ou de la terre ou de la vase, etc. On agite l'eau, et l'eau qui était claire devient trouble. On ne voit plus à travers. On perd la clarté. On ne sait plus. Moi, il m'est arrivé une fois une chose un peu. C'était un peu inquiétant. J'aimais bien plonger, descendre assez profond. J'étais dans un lac qui était assez vaseux. Puis je suis descendu, je ne sais pas, il y avait au moins 7-8 mètres de fond. Et puis, j'ai, sans faire exprès, remué le fond. Et à un moment, je ne savais plus vers où était le haut et vers où était le bas. Vous savez, c'est pendant pas longtemps, mais un petit moment, quoi. Après, j'ai juste réfléchi que les bulles montent toujours et puis c'était simple. Mais il y a un petit moment, on ne sait plus où est le haut et où est le bas. Hein. Et lorsque nos cœurs sont troublés, c'est un peu ce qui se passe. On perd nos repères. Il y a de l'agitation, ça devient trouble, on ne voit plus, on ne réfléchit plus objectivement ou raisonnablement, on ne sait plus, nos émotions s'emballent. Et puis on est dans cette espèce d'eau troublée, on ne sait plus vers où il faut aller pour retrouver la surface et pour respirer. Et Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors on va voir un petit peu ce que ça peut vouloir dire, mais j'aimerais encore ajouter que la réponse naturelle à l'agitation du cœur, si on ne réfléchit pas instinctivement, c'est une plus grande agitation. Parce que nous sommes comme ça, c'est notre instinct de survie. Hein. Lorsqu'un lion attaque un troupeau, s'ils restent ensemble, ils risquent rien, mais ils se mettent à courir et plus ça grogne autour, plus ils partent dans toutes les directions et plus ils sont en danger. Et pour nous, c'est un peu le même principe. Lorsque une mauvaise nouvelle arrive, lorsque des situations sont compliquées, lorsqu'on ne sait pas, notre cœur tout d'un coup est troublé, il est agité. Et ce qu'on aimerait, c'est oublier. Hein, et pour ça, se plonger dans une autre activité qui agite encore plus. Alors, des fois, on n'a pas le choix, on fait ça un petit moment pour fuir, parce que, ben, il faut le temps de retrouver ses esprits. Mais Christ nous propose quelque chose, et c'est l'inverse. Ce n'est pas une suragitation pour ne plus voir la première agitation. Hein. C'est un face-à-face avec ceux qui provoquent l'agitation et de le remplacer par autre chose. Croire en Dieu, je l'ai souvent dit, pour nous, on a cette idée, peut-être parce qu'on vit dans une époque où l'athéisme a pris un peu de place, ou en tout cas l'agnosticisme, où croire en Dieu, ça veut dire penser qu'il existe, ou être convaincu qu'il existe. Alors évidemment, c'est un prérequis de penser ou de croire plutôt qu'il existe. Mais croire en Dieu, ce n'est pas juste croire qu'il existe. Parce que croire qu'il existe, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, y a des tas de gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui croient qu'il existe. Hein. Et puis, je pense que même nous, croyants, entre guillemets, ça ne nous arrive pas trop des moments où on ne croit pas que Dieu existe. Mais il y a beaucoup de moments où, tout en sachant que Dieu existe, on ne vit pas dans cette relation de confiance qu'est la foi. Hein. Donc, lorsque Jésus dit « croyez en Dieu, croyez en moi », après, il va développer, on ne peut pas étudier tout ce texte, hein, expliquer qu'en fait, lui et le Père, ils sont un, et puis que pour aller au Père, il faut passer par lui. C'est pour ça qu'il dit « croyez en Dieu, croyez en moi ». Il parle en plus à des Juifs hein, qui sont déjà monothéistes et qui croient en Dieu, mais qui n'en connaissent pas le chemin par le Christ. Hein. Et c'est pas juste savoir que Dieu existe ou être convaincu que Dieu existe, c'est beaucoup plus que cela. Et on a un premier exemple que j'ai trouvé dans les Écritures aussi, mais qui en même temps, on va voir, peut être trompeur. Hein. C'est ce texte, vous savez, lorsque Jésus veut traverser le lac de Tibériade, hein, qu'ils appelaient une mer à l'époque, parce que c'est un grand lac, et puis il était sujet à des tempêtes très soudaines et très violentes, parce qu'il y a un couloir qui fait que le vent pouvait arriver très très vite et tout retourner. Et je vous lis le texte dans Matthieu 8, 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés se réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Pourquoi j'ai dit que ce texte pouvait être un piège pour nous ? C'est parce que nous croyons que Dieu existe, qu'il peut faire des choses. Et lorsque une situation ou des choses arrivent dans nos vies, ou juste l'observation du monde dans lequel nous vivons, fait que notre cœur est troublé et agité, notre première pensée, c'est que nous voudrions que Jésus fasse ce qu'il a fait dans cette tempête. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a supprimé la cause du trouble. Hein ? Hop, on rembobine, on efface. Il n'y a plus. Il y avait une tempête, il n'y a plus de tempête. Elle est où la tempête ? Il n'y a plus de tempête. Hein ? C'est comme, il est où le magno ? Ben, il n'est plus là. Voilà, il n'y a plus de tempête. Et ça, c'est ce que nous, on attendrait de Dieu. Et puis, on a cette idée que si on avait assez de foi, ben Dieu va le faire, hein, comme si la foi était le moyen avec lequel on pouvait faire pression sur Dieu. Et puis cette tempête est en train de détruire ma vie, ma famille, le monde, la planète. Et j'ai la foi et j'attends que Jésus se lève et dise « Pshut !» et il n'y a plus de tempête. Alors, c'est vrai qu'il l'a fait dans ce cas-là. Hein, et c'est vrai que ce qu'on appelle les miracles existe, je crois aux miracles, il y en a des fois. Mais pour moi, ils sont inexplicables, ils n'ont pas de raison logique. Je ne sais pas pourquoi Dieu en fait de temps en temps, mais pas souvent et très rarement, mais qu'il en fait. Et je sais qu'il peut en faire, mais la plupart du temps, ben voilà, ça ne se passe pas. Hein. Alors bien sûr, il n'y a rien de mal à prier pour que Dieu enlève la cause de la tempête. Mais souvent, ça ne va pas se passer ou ce n'est pas possible, tout simplement. Et nous avons quand même autre chose. Lorsque on continue le texte, d'un Jean 14, on arrive au verset 27, et Jésus dit ceci, c'est un peu la conclusion de tout le développement et du début qu'on a lu. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et là, on voit qu'en fait, ce que Jésus propose, ce n'est pas forcément supprimer ce qui cause notre agitation, donc la cause extérieure, mais c'est d'agir dans notre cœur en remplaçant l'agitation qui provoque la crainte, etc., par quelque chose d'autre et de positif. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et là, c'est important de rappeler que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. De la même façon que, par exemple, dans un couple, une bonne relation, ce n'est pas l'absence de conflit. On peut très bien ne pas être en guerre avec quelqu'un, mais ne pas avoir de vraies relations. Juste, on s'ignore. La paix, c'est quelque chose de positif, et on va voir, c'est un fruit de l'esprit. C'est une des saveurs du fruit de l'esprit. S'il n'y a pas plusieurs fruits, il n'y en a qu'un. Mais avant, je veux encore revenir sur cette idée. Donc, ce que Jésus nous propose, c'est, dans cette circonstance-là, en fait, oui, tu peux me demander d'enlever les causes, je le ferai ou pas, mais moi, je te propose quelque chose. Je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Et là, il y a cette phrase un petit peu étrange qui dit « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et là, il rajoute « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est de nouveau le même mot. Hein. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai souvent réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire ça « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » C'est quoi cette expression? Pourquoi Jésus met ça là au milieu, hein? Alors vous vous rappelez, le mot « monde » dans la Bible a plusieurs sens. Hein. Le monde, c'est la planète sur laquelle on vit. Le monde, c'est les gens qui habitent cette planète. Dieu a tant aimé le monde, ben c'est cela, c'est tous les êtres humains qui vivent sur Terre. Et puis le monde, dans la Bible, a un troisième sens. C'est le même mot, mais il a un troisième sens. C'est le système général qui fait que la façon dont nous vivons sur cette Terre, nous, humains. Et peu importe qu'on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui une grande démocratie ou de la façon de vivre dans une tribu, ou peu importe un modèle parallèle ou n'importe lequel, il y a une chose commune dans tous les systèmes où les humains vivent, c'est que rien n'est gratuit. Tout est vente, troc et commerce, toujours. Dans le monde des humains, quand on donne quelque chose, c'est jamais gratuit. Je ne dis pas que les gens font avec une mauvaise intention, hein, mais quand on me donne quelque chose, ça met sur moi une dette. Hein. Et puis, quand je donne quelque chose, même si je ne le fais pas dans cette intention, ça donne une sorte de pouvoir, et puis il y a possibilité de manipulation. Alors après, ça peut être exploité au maximum ou pas, hein. Mais nous, entre humains, le don désintéressé, dans le sens complet, total déconnexion du don et du reste, on ne peut pas vraiment le faire parce qu'on n'est pas comme ça. Je dirais, le plus proche de ça, c'est probablement l'amour maternel, ou peut-être même paternel, mais surtout maternel, hein, qui est peut-être la forme la plus désintéressée d'amour sur Terre. Mais sinon, nous, humains, on ne peut pas donner comme ça. Voilà, il ne faut pas se culpabiliser, il ne faut pas se dire, on est comme ça. Hein. Et Jésus nous dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que lui est capable de donner réellement sans qu'il n'y ait aucun commerce derrière, sans qu'il n'y ait aucune dette qui reste, ou sans que ça mette sur nos têtes quelque chose qui fait qu'après, on va devoir rembourser ou payer. Et ça, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est le royaume de Dieu, hein, qui devrait être manifesté par ce qu'on appelle l'Église, si elle était ce qu'elle devrait être. Pas parfaitement, mais en tout cas qu'elle tende vers ça. Ça devrait être cette ambassade, justement, du royaume de Dieu sur terre, où on vit comme ça. Dans le royaume de Dieu, on reçoit, on donne, mais rien ne se vend, rien ne s'achète, on ne fait pas de troc. Il n'y a pas de comptes qui sont tenus de ça fait trois fois que je donne, toi tu m'as donné une fois donc tu m'en dois deux. Non, celui qui veut donner donne, Et quand je reçois, je reçois. Point à la ligne. Il n'y a pas de comptabilité derrière. C'est embêtant, ça. Pour un comptable. Mais il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de recherche d'équilibre. Pourquoi ? Parce que dans ce royaume-là, on a un Dieu qui peut donner, 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 sans s'appauvrir. Et sans avoir besoin, de par sa nature, d'être payé en retour. Et lorsque Christ vient sur terre, et qu'il dit dans ce texte, entre les deux versets que je vous ai lus, c'est là où il y a ce développement, et il explique à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Je suis là pour vous expliquer qui est Dieu, pour vous le montrer au travers de quelqu'un qui a des pieds, des mains, qui marche sur terre, qui a des ampoules aux pieds quand il marche trop, qui a sommeil quand il n'a pas dormi, quelqu'un comme vous. Mais derrière cette incarnation, je suis là pour vous expliquer qui est Dieu. Et Dieu est quelqu'un qui donne gratuitement. Et c'est pour ça que Jésus dit « Ma paix, je vous la donne et je ne la donne pas comme le monde donne. » C'est-à-dire que vous pouvez en recevoir autant que vous êtes capable d'en recevoir ou que vous désirez en recevoir et ça ne crée pas une dette chez vous. Il vous faut juste le recevoir. Et accepter de le recevoir sans avoir à le rembourser. Libre à vous de donner tout ce que vous voulez aussi autour de vous, hein. Mais ça ne crée pas d'obligation. Et cette autre façon de vivre, qui est totalement différente de tous les systèmes humains qu'on peut mettre en place, y compris les plus belles utopies, a été inaugurée par la mort et la résurrection de Christ, parce que Christ est là et il offre sa vie, et Dieu donne qui il est, tout ce qu'il a, et il dit, pardonne-leur, et ils ne me doivent rien. Je fais ça et vous ne me devez rien en retour. Maintenant, acceptez-le, recevez-le. Parce que le royaume de Dieu, c'est recevoir et donner, recevoir et donner, et venant de Dieu, donner et recevoir aussi. Et tout simplement parce que c'est ce qui se vit dans la personne de Dieu depuis toujours, avant même que l'espace et le temps deviennent une réalité. Dans le mystère de la Trinité, où ce Dieu qui est unique, mais en trois personnes, et où chacun donne aux deux autres et reçoit tout le temps, 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 sans fin. Et c'est illimité. Et ça, c'est le fonctionnement de, on pourrait appeler la société de Dieu en lui-même. Et lorsqu'il a créé l'espace, le temps, et puis après, au bout de... voilà, le temps s'est déroulé, l'espace aussi, et puis un jour, nous, on arrive, les humains, sur Terre. Et on était appelés à vivre dans cette société-là, mais on a fait le choix de vivre en étant, nous, le centre. Et là, on a installé une autre façon de faire qui est, je te donne ça, mais tu me dois ça. Je te passe ça, mais tu me donneras ça. Et même dans les, comme je l'ai dit, dans ce qu'on appelle l'amour, lorsqu'un homme dit à une femme, je t'aime, c'est quand même du troc. C'est pas beau dit comme ça, c'est vrai, surtout pour un romantique comme moi. Mais c'est la réalité. Tu as quelque chose que j'aimerais bien et j'espère qu'il y a chez moi quelque chose que tu aimerais bien et voilà, on va mettre ça ensemble. C'est pour ça que l'engagement dans le mariage chrétien, c'est pour le meilleur et pour le pire. Parce que dans l'idée de Dieu, on s'est engagé et puis tout d'un coup, l'autre, il n'a plus ce pourquoi je me suis marié. Il a un accident et puis il ne marche plus, ou il n'a plus ça, ou plus ça, ou il n'est pas comme je croyais, et puis là, qu'est-ce que je fais ? Et Dieu nous dit, moi, je vous aime toujours pareil, et je donne toujours pareil. Alors, je reviens à ce qui est le cœur de notre sujet au début, aujourd'hui, que votre cœur ne se trouble pas. Quand la tempête arrive... Bien sûr, on peut avoir le réflexe de suragiter pour ne pas plus y penser. On peut, et on doit, demander le miracle. Seigneur, interviens, calme la tempête. Mais je dirais presque en même temps ou juste après, il reste une chose qui, elle, est toujours accessible. Le miracle, c'est l'exception. Et si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi des fois oui et des fois non, ça m'intéresse, mais je n'ai pas trouvé. En sachant que c'est possible et que ça arrive. Par contre, ce qui est toujours à notre disposition, c'est de recevoir, c'est de vivre en fait, en tant qu'enfant de Dieu, dans le royaume de Dieu, selon le fonctionnement de la société de Dieu. Et c'est de cela que Jésus parle quand il dit « Je vous donne ma paix et je ne la donne pas comme le monde donne. Hein. » Le monde, ce n'est pas aller faire la fête ou pas, ou faire ci ou ça, ou comment on s'habille, ou la musique qu'on écoute. C'est ce système où il y a toujours un échange du troc, de la vente, de la dette, et donc de la manipulation, et donc du contrôle et de l'autorité par la force. Et Jésus dit « Moi, je m'offre, je donne. » Et je vous donne ma paix comme ça. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que la paix, n'est pas, c'est pas comme si je disais, je vous donne mon téléphone. Non, je ne vous donne pas. Et puis vous pouvez le prendre et partir. La paix est un fruit de l'esprit. Hein. Vous connaissez le texte dans Galates 5, 22. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, etc. etc. Et le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la présence de Dieu en nous. Et donc, je ne peux pas dissocier la paix de Christ. Si je veux me saisir, accepter, recevoir cette paix que Jésus dit, je te donne ma paix, je vous laisse ma paix, en fait, c'est comme s'il aurait pu aussi bien dire, je me donne à vous, je reste avec vous. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, c'est exactement l'équivalent de « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, si vous le voulez bien. » Et on a l'illustration, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, la parabole du fils prodigue, ce plus jeune fils qui pensait que s'il prenait l'argent de son père et qu'il partait de la maison, il pourrait être heureux. Et puis il a découvert qu'en fait, l'argent du père, il était important que si je vivais dans la maison du père. Parce que ce qui donnait de la valeur à l'argent, ce n'était pas l'argent, c'était ce qu'on faisait dans cette famille, dans cette maison. Et nous, on aimerait souvent que Dieu nous donne sa paix, mais sans lui. Si j'osais, je vais oser, c'est sûr, je dirais, qu'il nous donne sa paix et qu'il nous foute la paix. Parce que on veut bien sa paix, mais on ne veut pas lui. Parce que la présence de Dieu, elle implique beaucoup d'autres choses. Dans sa présence, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne pense pas, il y a des choses qu'on n'exige pas des autres parce qu'on est conscient qu'il est là. Hein. Et d'ailleurs, si on vivait dans une conscience permanente et parfaite de la présence de Dieu, on serait presque parfait sur Terre. Hein, parce que si on était réellement conscient qu'il est là, à côté de moi, j'oserais pas dire ce que j'ai dit, j'oserais pas faire ce que j'ai fait, j'oserais pas penser ce que j'ai pensé, ben, il est là. Hein. Mais en réalité, il est là. Et donc, la paix de Christ, cette paix qui n'est pas comme ce que le monde nous donne, donc qui ne nous demande rien en fait, mais c'est un piège. Elle nous demande tout. Et c'est pour ça qu'on préfère le commerce. C'est pour ça qu'on préfère la religion à la relation. Parce que dans le commerce et dans la religion, lorsque j'ai payé le prix de quelque chose, même s'il est élevé, c'est à moi. J'en fais ce que je veux. Hein ? Mais ce que Christ nous propose, c'est non, c'est gratuit. Sauf qu'avec, il y a moi. Et moi, tout le temps, avec. Et là, c'est ouh, mais c'est beaucoup plus exigeant. Et c'est pour ça que lorsque Jésus vient et qu'il pousse la loi plus loin en disant, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Hein, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Ok, peut-être on y arrive. Et moi, je vous dis que celui qui a commis sans penser, il a fait la même chose. Aïe, plus difficile. Moi, je préfère la loi, parce que ne pas commettre d'adultère, je vais peut-être y arriver. Ne jamais y penser, ce n'est pas possible. Donc, et c'est comme ça dans tous les domaines. Ne pas tuer quelqu'un, je pense y arriver. Ne jamais souhaiter que quelqu'un disparaisse parce qu'il m'énerve, c'est plus compliqué. Hein. Donc, en fait, ce qui a l'air d'être plus simple est beaucoup plus exigeant, mais ça reste gratuit, ça reste disponible, et ça ne crée pas de dette. Et ça, c'est incroyable. Et ce qui serait magnifique dans ces temps troublés, il n'y a pas que nos cœurs qui le sont, les temps le sont en ce moment, c'est que justement la communauté des croyants, ce que devrait être l'Église, hein, la famille de Dieu, puisse être identifiée par les gens, qu'ils soient croyants ou pas, comme l'endroit où on peut venir et on va recevoir, on va être accueilli sans que ça crée une dette, sans être jugé, sans être catalogué, sans être classé, je peux y aller et je peux recevoir de l'amour, de la paix, de la joie, parce que ces gens-là en ont de l'amour, de la paix, de la joie, de la bienveillance, et ils en ont parce que la source de la paix, la joie, la bienveillance, le fruit de l'esprit, vit en eux. Et c'est ça qui fait un chrétien, c'est ça un disciple, c'est ça un témoin, c'est ça un missionnaire, c'est ça un envoyé de Dieu. Alors, je pense, voilà, entre nos situations personnelles, nos situations de famille, la situation de nos pays, la situation de la planète, le cosmos va pas trop mal, je crois, mais pareil qu'il rétrécit quand même. Mais on ne manque pas de sujet d'être troublé. Et nous avons la possibilité, justement, de sortir du silence en étant des ambassadeurs de paix, d'amour, de joie, mais pas comme le monde donne. Pas pour juger, pas pour créer une dette, pas pour... Tu as fait ça maintenant, tu vois, et par la culpabilité, obliger les gens. Non, je vous donne pas comme le monde donne. Hein. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et en fait, la clé de notre côté, parce qu'on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre, heureusement ou malheureusement, je peux le faire que pour moi. Hein. Et c'est moi qui tiens la clé de mon cœur. Jésus, dans l'Apocalypse, dit « Je me tiens à la porte et je frappe. » Et il ne dit pas ça à des non-croyants dans le sens des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Il dit à des croyants qui ont refermé la porte et qui disent « Ouais, mais si Jésus arrive, il va falloir faire à manger, il va falloir nettoyer, il va falloir faire la vaisselle. Bah, écoute, on se voit dimanche matin. » Je dis « Non, mais là, on est lundi matin, c'est long une semaine. » Alors, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi, ou je dînerai, ou je déjeunerai, ou peu importe. Et ça, en fait, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ce Christ qui est là. Et pourtant, c'est pas un Dieu suppliant, minable, non. Mais c'est parce qu'il y a un autre royaume où c'est différent, et parce que nous sommes toujours libres de dire non. Écoute, moi, je fais ma vie, moi, je me débrouille, moi, je suis fort. Moi, dans mon royaume à moi, c'est moi qui travaille, c'est moi qui gagne, c'est moi qui ai fait, parce que moi, je suis intelligent et moi, je suis fort. Tu souris, tu es tout ça parce que je te l'ai donné, ça peut disparaître en une seconde comme ça, sans que tu aies rien fait pour, hein, pas qu'on l'a mérité ou pas. Hein. Mais dans tous les cas, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi, ayez cette confiance. La tempête va partir ou pas, mais moi, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, et je ne la donne pas comme le monde donne. Et j'aimerais, je ne sais pas si c'est techniquement possible, Mathieu, repasser le chant de Laura Gagné, avec, si on peut avoir le texte, je te laisse le temps de chercher, et puis qu'on puisse réécouter et lire éventuellement ces paroles avec ce que je viens de dire en toile de fond, parce qu'en fait ce morceau, c'est pour ça que je l'ai choisi, hein. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ouvre la porte, ouvre ton cœur, c'est toi qui as la clé. » Et si nos cœurs sont troublés, c'est la seule chose qu'on a à faire, mais personne ne peut le faire à notre place, de dire, écoute, j'ai pas fait le ménage, j'ai pas fait la vaisselle, il n'y a rien dans le frigo, il n'y a que du pain moisi, mais ça fait rien, entre. Et lorsqu'il entre, il entre avec la paix. Et il l'amène. C'est pas pour rien que, chez les Juifs, mais aussi dans d'autres traditions, on se salue avec la paix, hein, que la paix soit sur ta maison. Mais la paix, elle vient avec Christ. Donc pour nous croyants, quand on souhaite à quelqu'un que la paix soit sur ta maison ou sur ta vie, on lui souhaite que le Christ vienne dans ta maison, dans ton cœur ou dans ta vie.